Chapitre 9. Un spectacle. Il était près de minuit lorsque le messager revint du presbytère. Mais quelle fut la consternation de Camilla en apprenant qu'il n'apportait point de réponse. Elle soupçonna qu'il n'avait point trouvé la maison. Mais il affirma qu'il avait remis la lettre entre les mains d'une servante et que, comme il était tard, il était reparti sur le champ sans songer à attendre la réponse. Ce n'est qu'avec le temps qu'on apprend, dans cette vie, à connaître le prix des précautions. On ne devient soigneux qu'après avoir souffert de sa négligence, c'est le fruit de la peine et du repentir. Camilla n'avait jamais eu d'affaires personnelles à conduire. En envoyant une lettre, elle comptait sur la réponse et ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même de n'avoir pas ordonné au messager de l'attendre. Elle se consola toutefois en considérant qu'on la savait à 9 000 d'Essarington et qu'en moins de 2 heures, on pouvait l'informer de la conduite qu'elle devait tenir. Son inquiétude était de savoir ce qu'on déciderait sur son sort. Sa mère lui écrirait-elle, informée de sa situation, ne viendrait-elle pas l'embrasser et lui accorder son pardon? Forcée de remettre au lendemain ses espérances et pouvant à peine se soutenir, elle voulut prendre un peu de repos. Mais son imagination, toujours active, lui fit craindre que ses parents ne la trouvassent trop bien portante et n'imaginassent qu'elle ne s'était dit si mal que pour obtenir la grâce de leurs alarmes. Elle passa donc sans se coucher la 4e nuit et, lorsque le soleil vint éclairer sa chambre, elle était suffisamment incommodée pour n'avoir pas besoin de feindre une indisposition. Elle avait une fièvre violente, les yeux cavés et la pâleur de la mort sur la figure. « Je crois enfin, s'écria-t-elle, que mon tourment va bientôt finir. Je mourrai peut-être dans les bras de ma mère, et avant d'expirer, je recevrai sa bénédiction. » Il ne lui resta de ses souffrances que celle de la fièvre et du total épuisement de ses forces. Mais cette tranquillité ne se soutint que durant les premières heures de la matinée. Elle s'écoulait et Camilla ne voyait venir personne à son secours. On ne lui envoyait pas même une lettre. Le désespoir s'empara de son cœur. Le moindre bruit la faisait frémir, elle écoutait sur l'escalier, elle se traînait dans la salle basse pour être plus à portée d'entendre. Enfin, n'en pouvant plus, elle remonta dans sa chambre, où, ne pouvant s'arracher de la fenêtre, elle écoutait et regardait avec persévérance. La petite Peggy, qui venait à tout moment lui dire l'heure, l'assura qu'il était temps de dîner. Elle était si peu disposée à manger qu'elle ne tint aucun compte de l'observation. Cependant, à 5 heures, Peggy revint de la part de son maître l'avertir que son dîner était servi. Elle laissa le dîner à Peggy et se jeta sur son lit avec le désir sincère d'y mourir. Elle repassait dans sa mémoire toutes les preuves que ses parents lui avaient données de leur tendresse. « Hélas, se disait-elle, si avant d'expirer, je voyais au moins une fois les chers auteurs de mes jours, s'ils me pardonnaient et me donnaient leur dernière bénédiction. » Comment ai-je pu fuir la voix de ma mère, cette voix qui avait toujours excité les plus tendres émotions de mon cœur? Pourquoi n'ai-je pas couru me prosterner à ses pieds? Je serais rentré dans le sentier du devoir, j'aurais retrouvé mon guide. » Déchirée de ses regrets justes et tardifs, elle voulut prendre une plume, écrire à sa mère, lui raconter les moindres détails et implorer son pardon même de l'offense qu'elle ignorait. Mais le désordre de ses sens avait troublé son esprit et l'impossibilité de lier ses idées lui persuada qu'elle approchait de sa dernière heure. Elle essaya cependant une seconde fois d'écrire, mais elle avait à peine commencé qu'elle entendit un bourdonnement de voix confuses qui l'attirèrent à sa fenêtre. Elle aperçut à une certaine distance une foule de gens qui s'avançaient à pas lents vers l'auberge. Elle fut étonnée de ne pas entendre, à mesure qu'ils approchaient, d'autre augmentation du bruit que celui qu'ils faisaient en marchant. On ne distinguait pas une seule voix particulièrement, chacun parlait du ton modéré de la conversation ordinaire. Ils semblaient même marcher avec précaution. La troupe était composée de laboureurs et d'ouvriers, de mendiants, de femmes et d'enfants, auxquels s'étaient jointes quelques personnes, et tous marchaient posément d'un air lugubre. Lorsqu'ils furent près de l'auberge, Camilla crut apercevoir, au milieu de la troupe, quelque chose qui ressemblait à un brancard, et elle ne tarda pas à voir distinctement un homme bien mis étendu sur le brancard et qui paraissait inanimé. Elle se retira précipitamment de la fenêtre et la ferma. « Mais pourquoi, se disait-elle un moment après, pourquoi suis-je donc si émue de ce spectacle? N'est-ce pas la mort que j'attends, que j'appelle et que je désire? Elle poussait de profonds soupirs et se traînait faiblement d'un bout à l'autre de sa chambre. Elle rouvrit enfin sa fenêtre avec la ferme résolution de contempler la situation où elle espérait se trouver bientôt elle-même. Ce ne fut pas cependant sans une violente répugnance. Mais elle ne vit plus le brancard, il ne restait que la foule. Elle ne put se défendre du désir de savoir si on l'avait transporté plus loin ou s'il était déposé dans l'auberge, qui ce pouvait être et les particularités de sa mort. Elle sonna la petite Peggy, mais elle ne vint point. Elle sonna une seconde fois et personne ne répondit. Elle ouvrit la porte de sa chambre dans l'intention de descendre dans la petite salle et de faire quelques informations. Mais le bourdonnement qu'elle avait entendu sur la route continuait dans la maison. Elle était remplie de peuple, chacun parlait bas et semblait frappé d'une sorte d'épouvante. N'osant point se montrer devant un si grand nombre de spectateurs parmi lesquels il aurait pu s'en trouver un qui la reconnut, elle ferma sa porte et attendit une bonne heure que la foule fût dispersée. Elle sonna Peggy, elle vint, mais elle était pâle et paraissait très effrayée. Camilla lui demanda ce qui l'agitait. « Oh, mistrice, lui répondit Peggy, c'est un meurtre qui s'est fait. On a assassiné un monsieur et personne ne sait qui l'a tué ni qui il est. » Elle lui raconta qu'on l'avait trouvé mort dans le bois voisin et qu'une personne, en appelant une autre, on l'avait apporté à l'auberge pour savoir si quelqu'un le reconnaîtrait. « Est-il ici à présent ? » reprit Camilla avec un frémissement involontaire. « Oui, mistress, mais ma maîtresse m'a défendu de vous le dire, de peur de vous alarmer. On va bientôt l'enlever. » Cette relation était effrayante, et sans trop savoir pourquoi, Camilla dit à Peggy de rester avec elle. La petite ne demandait pas mieux, mais sa maîtresse ne tarda pas à l'appeler, et Camilla, honteuse de ses craintes puériles, imagina de tirer quelque parti de cette scène lugubre. Son esprit était en désordre, ses idées sans suite. La seule sur laquelle son imagination pouvait se fixer était le désir de faire encore une démarche auprès de sa famille, de les conjurer de consentir à la voir une seule fois, en supposant qu'ils pussent avoir cette requête avant sa mort, ou qu'ils connussent au moins dans quelle disposition elle était morte s'ils arrivaient trop tard. Elle prit la plume et parvint à écrire les lignes suivantes. « Adieu, mes chers parents, si vous refusez encore de me revoir. Adieu, mes chères sœurs. Adieu, le plus chéri des oncles. Je vous demande à tous humblement pardon. Je sais que vous me l'accorderez. Mon père ne me l'a jamais refusé et ma mère me l'aurait accordé de même si je n'avais offensé qu'elle personnellement. Bénissez, mes chers parents, les cendres d'une fille coupable mais qui vous adore. Du moment où elle a eu le malheur de vous causer des peines, la vie lui est devenue insupportable et elle n'a plus désiré que la mort. » Camilla Tyrold. Elle remit cette lettre à la petite Peggy en lui recommandant de la faire partir tout de suite, à quelque prix que ce fût, pour Essrington. « Et après m'être acquittée de ce premier devoir, ne puis-je pas, dit-elle, dans ma situation, écrire un mot sans blesser la décence à celui qui a été prêt de se lier avec moi pour la vie ?» Elle reprit la plume et écrivit « Oh Edgar, que ce dernier adieu efface tout ressentiment !» Depuis le premier instant jusqu'au dernier de ma vie, vous avez possédé uniquement mon cœur. » Ici, elle fut saisie d'une douleur de tête si violente qu'il lui fut impossible de continuer. Elle mit l'adresse et ajouta, non sans peine, « pour être remise après ma mort. » Elle fut forcée de se reposer sur le lit et de tout fermer pour éviter la lumière que ses yeux ne pouvaient plus supporter. Peggy vint lui dire que les chevaux étaient occupés et que sa lettre ne pourrait partir que le lendemain. Elle demanda Mistress Marle, qui lui fit dire qu'elle était pour le moment très embarrassée, mais qu'elle monterait aussitôt que cela lui serait possible. Après avoir attendu vainement jusqu'aux approches de la nuit et se trouvant beaucoup plus mal, elle prit le parti de tâcher de descendre et d'offrir à son hôte tout ce qu'il pourrait demander s'il voulait aller lui-même remettre immédiatement sa lettre à son adresse. Elle parvint à se lever et à descendre, mais en approchant de la petite salle, elle entendit plusieurs voix et s'arrêta. On parlait bas et elle ne pouvait rien distinguer. La porte de la chambre attenante était ouverte. N'y entendant point de bruit, elle résolut d'y entrer, de sonner et de demander à parler à son hôtesse. En se traînant dans cette chambre, elle aperçut le cadavre qu'elle avait vu sur le brancard, étendu sur une grande table. Un mouvement de terreur lui fit presque perdre connaissance. N'ayant pas la force de se soutenir, elle s'appuya en tremblant sur la porte. La faiblesse physique qui l'avait empêchée de sortir aussi promptement qu'elle l'avait désiré, lui laissa le moment de la réflexion. « Pourquoi donc, dit-elle, ai-je si peur de la mort que j'appelle ?» Elle prit sur elle d'approcher de la table. Le visage du mort était couvert d'un linge. Elle le considérait et hésitait de le lever. Immobile et tremblante, elle résistait aux cris de la nature qui la pressait de se retirer. Elle avance sa main vers le linge. Elle reste suspendue. Enfin, elle ose le soulever. Mais un mouvement d'horreur la saisit, elle retira sa main et s'en couvrit la vue. Ayant suffisamment essayé son courage, elle voulut sortir. Mais en retirant, pour voir à se conduire, la main qui couvrait ses yeux, elle vit une partie du visage découvert et fut également frappée de surprise et d'épouvante. Elle resta quelques instants immobile, hors d'état de faire un pas et n'osant regarder davantage, dans la crainte de voir son doute confirmé. Mais en détournant les yeux de la figure qu'elle avait cru reconnaître et voulant sortir sans fixer cet effrayant objet, l'habit qu'elle aperçut changea son doute en certitude et elle reconnut que le cadavre exposé devant elle était le mari de sa sœur. Dans les âmes généreuses, le ressentiment, quelque mérité qu'il puisse être, ne survit point à l'auteur de l'offense. La mort du coupable fait disparaître tous les sentiments de haine et de vengeance. Et quoique le premier mouvement de l'amitié fraternelle eût été le plaisir de voir la chaîne d'Eugénia rompue, elle ne pouvait pas en jouir. Le malheureux bel ami, au pied de la justice éternelle, était un objet trop funeste et trop imposant. Dès qu'elle eut détourné la vue de cet affreux spectacle, sa sœur fut le premier objet qui s'empara de toutes ses pensées. Elle résolut de se faire conduire à Belfond. Le désir d'être utile fortifie également l'âme et le corps. Elle fit un nouvel effort pour sortir. Mais, ayant encore jeté involontairement un regard sur le cadavre, elle aperçut sous le bras droit l'habit couvert de sang. Elle tomba sur le carreau en s'écriant « Il a été assassiné !» Ou peut-être Eugénia. La femme chargée de garder le corps était sortie un moment pour se rafraîchir. À son retour, elle trouva Camilla étendue et courut appeler Mrs. Marle. Elle la reportèrent sur son lit. Et, quoique subitement saisie d'un violent accès de fièvre, elle ne voulut point souffrir qu'on la déshabilla. « C'en est fait, dit-elle, c'est ici que je rendrai mon dernier soupir. » La joie que lui aurait causée quelques instants plus tôt cette perspective se convertit en épouvante. Le désir de la mort n'est communément que le dégoût de la vie. C'est à se délivrer des peines de ce monde que se bornent toutes les considérations. Mais ce qui nous attend après vint frapper son imagination et, loin de la tranquilliser, y répandit l'alarme. « Je voulais tout quitter, s'écria-t-elle, mais comment m'y suis-je préparée et quel sera mon sort ?» Les rêves de son imagination furent subitement dissipés par le cri de sa conscience et le nuage qui lui cachait son égoïsme s'éclaircit. « Ces parents que tu veux quitter ne t'ont-ils pas aimé, chéri, élevé avec les soins les plus tendres? S'ils sont offensés, n'est-ce pas toi que tu dois en accuser? Si tu es aujourd'hui délaissé, n'est-il pas possible que ce soit ou par nécessité ou par accident ? Crois-tu qu'ils ne souffrent pas de leur sévérité pour une fille coupable qu'ils aimaient si tendrement? Et après leur avoir infligé cette double peine, veux-tu encore les punir d'avoir été sensibles à tes fautes? Après les avoir plongés dans le malheur, n'as-tu point de souhait plus généreux à faire que de les abandonner dans l'infortune et de l'aggraver par la douleur de te trouver expirante au moment où ils viendront te tendre une main secourable et t'accorder le pardon de tes imprudences? Crois-tu être innocente de ta mort parce que tu n'as point porté contre toi une main hardie? N'est-ce pas l'inanition, l'insomnie et le peu de soins de ton existence qui t'a réduite dans ta situation? L'infortuné que tu viens de voir, étendu sans vie, sera traité peut-être plus favorablement que toi lorsqu'il rendra ses comptes s'il n'a pas été élevé comme toi dans les principes de la piété et de la vertu. » Elle méditait les préceptes qu'elle avait reçus de son père. Elle se rappelait sa pieuse résignation dans l'infortune et dans l'espoir de calmer ses inquiétudes par la prière, elle aurait désiré qu'on lui récitât celle des agonisants. Peggy ne savait point lire. Mistress Marle n'en avait pas le temps, et il était impossible de la satisfaire. Elle demanda un livre de prière pour tâcher de lire elle-même, mais elle essaya vainement. Tremblante de terreur autant que de fièvre, elle cessa de désirer la mort. Le réveil de sa conscience lui faisait sentir qu'elle y était mal préparée, ses regrets se convertirent en remords et sa douleur en désespoir.